Bonjour et bienvenue à Scal 17-18 à la Fulgence Blanc au micro et Nicolas Fatman à la technique. Ouais, quelle belle journée. Voilà, pour cette deuxième édition de la semaine. J'étais en train d'arranger mon micro. Alors, en première partie d'émission, j'ai choisi quelques sujets pour vous. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Pierre Desmarais, qui est le directeur de Danse Danse. On va parler de cette nouvelle création audacieuse de Guillaume Côté, ce danseur chorégraphe. Voilà, c'est de ça qu'on va parler en deuxième partie d'émission à 17h30. Mais en première partie d'émission, oui, bien sûr, comme vous le savez, il y a le tournoi, le Masters 1000 de Rome. Voilà, nos deux Québécois, Chapovalov et son ami Félix Auger Aliassim, voilà, sont en train de partir un peu en avant. Là. J'espère qu'ils vont arriver en finale. On leur souhaite. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait? Bonjour Nicolas.
Enchanté.
Oui, enchanté, je vois ton visage qui brille là, il aime tellement le soleil. Voilà.
Oui, j'aime beaucoup ça.
Voilà. Avec tes 32 que tu allais avoir à Miami là-bas, 32-35.
Oui, exactement, ça. Orlando par contre, oui, mais oui.
Ouais, ouais.
C'est ça, c'est le gros soleil, la grosse chaleur, beaucoup de plaisir.
C'est ça. Allez, on va en musique tout de suite avec Larry Fleet, Holding Her and Loving You.
It's the third hardest thing I'll ever do is leaving here without you. It's the second hardest thing I'll ever do is telling her about you. She's been good to me, and things are going rough. So how can I tell her now that good ain't good enough? It's the hardest thing I've ever had to do. It's holding her and loving you. She give me one good reason I be gone, but she ain't done one thing wrong. So don't expect me to walk out of our door. I still love her, but I love you more. She's been good to me when things weren't going right. She made my days long before you made my nights. It's the hardest thing I've ever had to do is holding her and loving you. It's the hardest thing I've ever had to do is holding her and loving you.
Larry Fleet, Holding Her and Loving You. Voilà, je vais parler de quelque chose qui va faire plaisir aux automobilistes. Parce que c'est l'avenir, on n'y peut rien. À Bruxelles, de la pompe à la bière. À Bruxelles, en Belgique, du carburant grâce aux bières sans alcool. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Ça ne veut pas dire qu'il ne veut plus boire la bière sans alcool. Bon, il faut aller directement à la station d'essence pour se remplir. Non, 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 c'est pas ce que je voulais. À Bruxelles, en Belgique, exactement. Où il y a des brasseurs qui fabriquent des bières dont l'alcool est ensuite retiré. Bon, ce dernier sert à fabriquer de l'éthanol qui se retrouve à la pompe en vue de faire rouler les voitures des Belges. Alors, c'est intéressant, non, Nicolas? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses?
Mais, personnellement, moi, je ne suis pas très alcool, et etc., mais ça reste... C'est, à moitié, je pense, ça reste quand même une idée.
Ouais, bon, on parle pas d'alcool. C'est-à-dire que la bière, oui, d'accord, mais c'est le côté éthanol qu'on va sortir là de la bière sans alcool pour faire du carburant. Ça, c'est génial. Avec le prix des carburants qui montent, moi, j'ai mis un peu de carburant dans ma voiture aujourd'hui, là, $50, je pouvais même pas faire le plein. Non, 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 avant c'était $50, maintenant je fais le plein avec $100, un peu plus même.
Ah, ça s'est rendu le double.
Voilà, le
Ouais.
double, voilà, c'est dû à $2 et quelques. Donc, les bières sans alcool connaissent un succès. Bien, on le sait, il y a beaucoup de gens parce qu'on peut boire et prendre le volant. Voilà, ça c'est clair, il n'y a pas d'alcool. Voilà, qu'il y a le géant brassicole AB InBev, ça tend à voir son volume mondial de production constitué de 20% de bières non alcoolisées ou à faible teneur d'alcool d'ici 2025. Mais il faut se demander où passe l'alcool quand on retire la bière 0% d'alcool. Ça, où ça passe? La réponse va vous étonner. Hein. Je vais vous le faire découvrir. Voilà. Elle se trouve à la fois dans vos mains, dans votre cuisine et dans votre voiture. Parce qu'il y a des produits de beauté aussi qui sont faits à partir de ça. Ou bien, voilà, des choses comme ça. Donc, comment retirer l'alcool de la bière? La méthode a changé. Les bières sans alcool séduisent de plus en plus les consommateurs. Entre ceux qui n'apprécient pas les effets de l'alcool, ceux qui désirent boire un verre et conduire ensuite, et les pays où la consommation de boissons alcoolisées est interdite ou malvenue, les débouchés sont prometteurs. Toutes les marques s'y mettent donc chez le leader mondial AB InBev. Cela fait longtemps, c'est la compagnie, et qu'on y croit. Quasi tous les produits du groupe sont déclinés en 0%. Même la Corona y passera bientôt. Alors, j'en parle parce que quand on retrouve ça dans les stations d'essence, on peut faire le plein de nos voitures avec. Ça veut dire que à un moment donné, ces gros producteurs de pétrole vont arrêter de nous égorger quoi, avec les prix qu'on a actuellement dans les stations d'essence. C'est là où je vais en venir. C'est pourquoi cet article, je voulais à tout prix en parler. Alors, comment produire ces bières sans alcool? Frédéric Marchand, qui est directeur technique du site louvainiste AB InBev, la méthode a évolué. Au début, on interrompait la fermentation de la future bière juste avant qu'elle produise de l'alcool. Mais franchement, le résultat n'était pas très satisfaisant. On n'avait pas le goût de bière. Alors, ils ont choisi de laisser le processus de se dérouler jusqu'au bout. Ils obtiennent maintenant une véritable bière, mais ils la soumettent ensuite à un procédé qui consiste à retirer sa part d'alcool. Voilà. Ils font passer la bière alcoolisée dans une colonne en inox dans laquelle ils injectent de la vapeur sous pression. Cette vapeur se charge de l'éthanol et la bière qui ressort est 0% d'alcool. L'alcool recueilli est alors condensé et stocké dans un silo extérieur où il est refroidi. Ensuite, il est disponible pour d'autres utilisations qui ne relèvent plus du métier de brasseur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Quand deux géants de la bière et les biocarburants travaillent ensemble, une fois l'alcool soustrait de la bière, il connaît une nouvelle vie. Comment ils détestent produire des déchets, c'est ce qu'il explique, hein, Frédéric Marchand. L'éthanol retiré de la bière a très vite été utilisé pour alimenter une installation de biogaz qui fournit l'électricité pour leur site, mais les capacités sont pleines. Alors qu'est-ce qu'ils font? Il fallait donc trouver un autre débouché et c'est vers un producteur de biocarburant qui se sont tournés. Voilà, c'est comme ça qu'on retrouve ces biocarburants dans les stations d'essence là-bas à Bruxelles, en Belgique. Et comme il recueille environ 1 litre d'alcool par 85 canettes 0%, et il lui envoie chaque jour un camion-citerne rempli d'éthanol à lui de transformer ça en biocarburant. Donc, tous ceux qui vont dans les stations là-bas en Belgique, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire forcément de l'essence qui vient de Russie ou bien, ou bien de, je ne sais où, d'Arabie Saoudite. Donc, ce partenaire, c'est Alco Group, le leader européen du secteur, son usine de Grand, qui produit à elle seule 300 millions de litres de carburant végétal par année. Voilà. On espère qu'il y a d'autres brasseurs qui vont coopérer avec certaines autres compagnies comme ça pour essayer de permettre aux automobilistes à travers le monde, parce que tout le monde subit cette inflation qui fait mal aux automobilistes, à tout le monde, bien sûr. Voilà. Et puis, les principales matières premières sont du maïs, du blé ou des betteraves non alimentaires, mais explique Charles Albert Pierce, l'éthanol des brasseurs est aussi le bienvenu. Voilà, c'est un bel exemple d'économie circulaire dans l'industrie. On va aller de l'avant avec ça. Ouais. Et il y a des produits cosmétiques qui viennent de là aussi. Voilà. À un moment donné, il faut en parler, quoi. J'espère que ça va permettre à chacun de nous de dire « Ouh, quand est-ce que ça va arriver ici chez nous à Montréal ?» Dans nos stations, je ne sais pas si ça existe déjà, le biocarburant. Alors, si vous le savez, si vous savez, vous avez déjà rempli votre, fait le plein de votre voiture avec du biocarburant, n'hésitez pas de me faire signe, je vais en parler. Moi, personnellement, les stations que je fréquente, j'en ai pas encore, j'en ai pas encore vu. C'est de l'essence qui coûte les yeux de la tête. Voilà. Bière sans alcool. Jusqu'à la station d'essence. Allez-y comprendre quelque chose. Une deuxième pièce musicale avant de passer au tournoi Masters 1000 de Rome. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas.
Toi, toi, et le soleil, je ne vois plus que toi, toi, toi,
de Marathonians, toi et le soleil. Avec le beau temps qu'on a depuis quelques jours ici à Montréal, on ne peut pas se plaindre. Voilà, nous les frileux, on est contents comme si ça va donner quoi. Voilà. Quels sont les grands absents du tournoi de Rome, le Masters 1000 de Rome? C'est les Français. Aucun Français n'est engagé dans les Masters 1000 de Rome. Aucun. Une bien triste première qui met en lumière les difficultés actuelles d'ailleurs. C'est un signe comme un autre que tout ne va plus très bien dans le tennis français. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Quand on demande ici à Rome, à Tim Anand, l'ancien champion anglais, Elman, l'ancien champion anglais de 47 ans, numéro 4 mondial en 2002, aujourd'hui commentateur, ce qu'il prend de ce zéro pointé bleu dans le tableau des Masters 1000, il n'en revient pas. Ah, je ne le savais pas. Et puis, bon, ben, il fait défiler sur son téléphone le classement ATP pour se rendre compte que la réalité de la situation et des nouveaux noms de la potentielle relève comme beaucoup. Et il en était resté au Big Tricolor, son gars. Ouais, mon fils, Gaël, mon fils, bien sûr, Gasquet, Simon et Joe Wilfried, son gars, voilà. Surtout le dernier, contre qui il avait joué sur le circuit en 2007 lors du deuxième tour de l'US Open. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? D'ailleurs, celui-là, Joe Wilfried, son gars, il va prendre sa retraite bientôt, là, quand ils vont finir Roland-Garros cette année, là, qui commence du 22 mai au 5 juin. C'est fini, c'est son dernier match. Il prend sa retraite. Voilà, sans surprise, il a été invité. Et à Gilles Simon aussi, ils ont reçu aujourd'hui leur invitation pour le grand tableau de Roland-Garros du 22 mai au 5 juin. Après avoir annoncé qu'il prendrait sa retraite après son dernier match à Roland-Garros, il ne restait plus à Joe Wilfried Tsonga, 263e, qu'a espéré recevoir une invitation pour le tableau final du Grand Chelem français. Sans surprise d'ailleurs, le sésame lui a été accordé et c'est bien sûr l'un des cours de Gilles Simon, 160e, qui a annoncé qu'il mettrait un terme à sa carrière à la fin de la saison. Donc, il va donc disputer son dernier Roland-Garros. Il va bénéficier également aussi d'un wildcard, tout comme Lucas Pouille, 165e, Corentin Moutet, 126e. C'est des gens qui ont fait leur temps quand même. Ils n'ont pas toujours été là-bas dans les 100-500. Ils ont aussi été dans les 10 premiers. Alors, chez les femmes, ce sont Harmony Tan, 115e, Chloé Paquet, 111e, Léolia Jean-Jean, 223e, Elsa Jacquemot, 229e, et Fiona Forêt, 139e, qui vont bénéficier de cette invitation. Elle a 118 invitations pour les qualifications. Donc, la Fédération française de tennis a aussi octroyé des invitations pour le tournoi de qualification du 16 au 20 mai. Ça, c'est les gens, ils vont bien s'amuser là-bas. Il faut le dire, hein. Ouais. Il y a 9 hommes qui sont déjà sur la liste. On verra bien quels sont ceux qui vont les rejoindre là-bas à Roland-Garros. Je parlais du jeune espagnol. Non, je vais revenir. Celui qui a battu Nadal et Djokovic. Djokovic se sent bien là-bas à Rome. Hein. Il a dominé Aslan Karatsev au deuxième tour du Masters 1000 de Rome. Bonne entrée en matière. Bonne entrée en matière d'ailleurs pour Novak, et il est toujours le numéro 1 mondial. Hein. Il a dominé Aslan en 2-7, 6-3, 6-2, tout sec. Ouais, ça va très vite. Ouais, après sa défaite face à Carlos Alcaraz, le jeune de 19 ans, espagnol, la semaine dernière, il faut le faire, hein. C'est lui, le premier, le seul qui a battu Nadal et Djokovic au même tournoi. Super battu en plus, on se dit, ce garçon de 19 ans. Il a le vent dans les voiles, quoi. Voilà. Souhaitons-lui bonne chance comme ça. J'espère qu'il va aller montrer à ces gens-là, à ces anciens, quand on est au-delà de 30, au tennis, 30, 35, 32, 33, 34, on est déjà anciens. Hein. Il faut prendre sa retraite. Alors, il va leur montrer là-bas aussi, je pense bien à Roland Garros, qu'il est en forme. Il va pas laisser les gens l'influencer ou bien lui faire peur. Non. Alors. Et il était en doute quand même, ce jeune-là qui a affronté Djokovic. Oui, il était bien parti pour une deuxième balle. J'ai vu les résumés des matchs. C'était quelque chose. Hein. Et puis, il y a Grigor Dimitrov qui s'en sort au métier au premier tour du Masters de Rome. Et, il a fait parler son expérience malgré une victoire en 2-7 face à Brandon Nakashima. 6-3, 6-4. Dimitrov, Krylov, bien sûr, a dû s'employer ce mardi aujourd'hui pour franchir le premier tour du Masters 1000 de Rome. Le score peut sembler assez sec aussi, hein. 6-3, 6-4. Très bref, très bref, très bref. Voilà. Et qui a été éliminé chez les femmes? Il y a Jelena Ostapenko qui a été éliminée par Lauren Davis au premier tour à Rome. Voilà, 13e mondiale. Voilà, elle a cédé son premier tour du, voilà, du Master de Rome face à la qualifiée Lauren Davis 6-2, 6-3. Tout sec aussi, hein. Ça va très vite. Elle était demi-finaliste à Doha, connue, qui connaît depuis des difficultés avec quelques défaites d'entrée lors de ses dernières compétitions, de ses derniers tournois disputés. Voilà, ça c'est quelque chose. Il y a Félix Auger-Aliassime qui remporte le bras de fer face à Alejandro Davidovic. Davidovic Fokina au deuxième tour à Rome. On lui dit bravo. Oui, ah, il est parti lui aussi. Comment il a battu? Mais non, c'était pas facile. Hein. 4-6, ça dit que Félix Auger a perdu le premier set, deuxième set. Il a fait 7-6-2 et puis 6-2. Alors, le jeune Québécois, Canadien, Québécois, 9e au classement ATP. Il est parmi les 10 premiers en plus d'ailleurs. Il s'est imposé au bout de l'effort aujourd'hui, ce soir, en Europe là-bas, pas chez nous ici, il faisait jour là-bas. L'Espagnol Alejandro Davidovic Fokina, il est 29e. Voilà. Denis Shapovalov en 8e de finale du Master 1000 de Rome. Ah, il n'a pas 6-4. 7-6 contre qui? Il est parti au lit, ce garçon. Il a fait son jeu quand même, il faut le dire. Voilà. Basil Lachevili. Voilà. Il a profité de l'irrégularité de Lachevili. Et puis ensuite, il n'était pas. Il a fait des gaffes aussi. Il a insulté le public lors de son premier tour. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas attendu longtemps pour faire. Ouais. Parler de lui au Foro Italico. S'il est qualifié pour le deuxième tour en disposant du loco Lorenzo Sorengo lundi, il passe au huitième. Ah, on lui dit bravo, lui aussi. Voilà, il a fait son tour, il va se retrouver là-bas au huitième. Et on dit bravo à nos deux jeunes, ils sont des amis d'ailleurs. J'espère qu'ils vont aller jusqu'à la finale, ce serait génial. J'aimerais bien les voir une fois en finale, l'un contre l'autre. Comment ils vont se débrouiller là-bas, entre des amis en finale. Alors, on voit ce que ça va donner, quoi. Voilà. On termine en beauté, en musique. Il y a tellement de choses à dire, je voulais parler. Demain, je vais revenir sur le tennis de France. Les matchs ont lieu tous les jours. Donc, j'ai pas le choix, il faut que j'en parle tous les jours. Pour être fait de l'actualité aussi, la mise à jour. On va en musique, on termine. Je voulais parler de... Après ça, Tu finis la chanson, tu me donnes une minute pour que je parle un peu de cette chanson qui va passer, l'Empress of Ireland. C'est un paquebot, c'est un navire aussi qui a fait naufrage sur le fleuve, dans le fleuve Saint-Laurent, dont on parle très peu, ça a été complètement oublié, on ne parle que de Titanic, c'est pas Titanic seulement qui a fait naufrage. Donc tu ne laisses pas finir la chanson pour que je puisse faire un clin d'œil à ce paquebot. C'est grâce à cette chanson que j'ai pu savoir qu'il y avait un autre navire. Gros, ouais, qui avait autant de passagers, ou bien presque, qui a fait naufrage dans le Saint-Laurent.
Ça fera bientôt 100 fois que le navire fait le trajet. Le capitaine le connaît comme le fond de sa poche. Mais il sait bien qu'il faut toujours être aux aguets. Car c'est sans le demander que la mer emporte. C'est en après-midi que sont largués les amarres. En ce jeudi 28 de mai 1914. Et tandis que les gens s'envoient leurs au revoir, un navire s'éloigne des quais pour son grand départ. Et on sent passager 400 membres d'équipage quittent le port de Québec, direction Liverpool. C'est sur le Saint-Laurent que s'entame leur voyage à bord de l'Empress of Ireland. Le paquebot sur son chemin, la journée se termine. Les Les passagers se mettent à l'aise dans leur cabine. Plusieurs partent en famille et vont rejoindre des proches. Et pour acheter le billet, ils ont vidé leurs poches. La traversée de l'Atlantique devrait prendre 4 jours. Et même que par beau temps, on fait parfois plus court. Mais rendu à hauteur du fort de Pointe-au-Père, y a un mur de brouillard qui cache tous les repères. Et on sent passager 400 membres d'équipage qui quittent le port de Québec, direction Liverpool. C'est sur le Saint-Laurent que s'entame leur voyage à bord de l'Empress of Ireland. Capitaine, à tribord, un navire fonce sur nous. Mais il est déjà trop tard pour éviter le coup. La poule d'un charbonnier vient harponner l'Empress. Et dès qu'il s'en dégage, l'eau s'infiltre dans la brèche. Les issues sont bloquées par une marée humaine. Et l'espoir s'atténue quand les lumières s'éteignent. Un officier tente d'envoyer.
Ah oui, vous entendez là, le naufrage oublié du paquebot Empress of Ireland dans le fleuve Saint-Laurent. C'était en mai 1914, ça fait 108 ans maintenant, oui, un peu plus d'un siècle. Donc voilà, il a quitté le port de Québec à 16h27 et le navire entreprenait sa 192e traversée de l'Atlantique en direction de Liverpool. Au moins 1477 personnes étaient à bord. C'était la soirée douce, c'était l'allégresse. Et puis bon ben, voilà. C'est parti. C'est oublié. On parle pas de ça. C'est ce qui fait que je voulais faire un petit clin d'œil. Voilà, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on va parler de danse avec Pierre Desmarais, directeur de Danse Danse.
Vous écoutez Escale 17-18 avec Fulgence Blas.
Mana vivir sin aere. Voilà, ça c'est du classique. Ça. Bon, mon invité est déjà au bout du fil, Pierre Desmarais, qui est le directeur de Danse Danse. Il va nous dire pourquoi il a choisi Crypto de Guillaume Côté pour clore cette saison de Danse Danse. Voilà, parce que quoi, bon, c'est une audacieuse, hein, c'est une création audacieuse. Peut-être c'est la raison pour laquelle. Bonjour Pierre Desmarais.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien, merci, et vous?
Oui, ça va très bien.
Merci d'avoir lu. Hein,
Allez-y. Non, mais on clôture notre saison, mais ça fait depuis 2020 qu'on veut clôturer notre saison.
OK.
Avec de Guillaume Côté.
Ah, OK.
Donc, c'est la troisième tentative.
C'est ça. C'était prévu, initialement, c'était programmé en 2020, reporté à ce printemps pour cause de... Moi, je l'appelle même plus pandémie, je l'appelle le maudit virus.
Exactement.
Alors, comment vous vous sentez? Ça commence demain, là. C'est demain le 11.
Ça commence demain soir, oui.
Oui.
Et je pense que les artistes sont déjà en salle, le montage est en train de se faire.
Oui.
Et je pense que tout le monde est un peu fébrile. Là,
parce oui.
Que ça fait... Tu sais, ça fait quand même... On ne peut pas accoucher d'une pièce pendant 2 ans.
Oui.
À un moment donné, il faut que qu'elle se passe. Et puis, pour nous, c'était vraiment important de présenter cette nouvelle création-là. Ben, ce n'est pas une nouvelle. Elle a été créée il y a 2 ans, mais cette création-là de Guillaume Côté. En fait.
Oui, oui, oui. Bon, ben, il y a 2 ans, puisque ça n'a pas encore été... c'est pas encore passé chez vous à Danse Danse. Danse Danse qui existe d'ailleurs depuis 1998, hein, 1998. Depuis sa fondation.
C'est bien ça. Mm-hmm. Oui,
et merci à vous. Merci à vous. Pierre, merci à vous et à toute l'équipe de nous faire découvrir cette diversité. Une programmation très diversifiée. D'ailleurs, vous faites découvrir des danseurs d'ici. Et d'ailleurs, la rencontre entre les artistes et le public, c'est tellement... J'ai vu des danseurs que, sans vous, peut-être que je n'aurais jamais eu la chance de voir à Montréal.
Oui, mais c'est la base même de Danse Danse, c'est de faire découvrir à notre public toute la richesse de ce qui se fait à travers le monde.
Oui.
Et c'est dans un sens, c'est aussi une confrontation avec nos artistes locaux.
Oui.
Et ce qui se fait ailleurs. Donc, il y a tellement, je peux vous le dire, moi je pourrais présenter à toutes les semaines un spectacle de danse. Il y en a tellement.
Il y en a tellement. Il y a tellement de danseurs, oui. De chorégraphes.
C'est
quand on voit ça, on se dit, mais au fait, alors on se dit, est-ce que c'est... Vous avez, je pense bien que ça doit être plein, là, le Théâtre Saint-Denis. Le Théâtre Maisonneuve, ça doit être plein, là.
Oui, mais suite à la pandémie, hein, vous savez, c'est comme une reprise hein, des habitudes pour le public.
Oui.
On aura de belles salles. Nous, de façon habituelle, nos salles sont entre 65 et 75% parce qu'on fait quand même soit 4 ou 5 représentations par semaine. Et c'est une salle de 1400.
Oui.
On s'entend que c'est beaucoup de personnes. Mais on devrait se rendre à 60% facilement. Là,
Oui. Et puis c'est une pièce quand même spéciale quand même. C'est il y a performance amalgame théâtre, musique, technologie et gestuelle teintée de classicisme qui s'inspire d'une histoire écrite par le librettiste canado-américain Royce Vavreck. Parlez-nous un peu de ça, s'il vous plaît.
C'est bien ça.
Oui.
Oui, mais c'est ça. En fait, c'est la pièce est basée sur cette histoire que Royce a écrite. Et puis, c'est vraiment une réflexion sur l'universalité de la beauté.
C'est ça.
Puis notre entêtement à vouloir la contrôler et la transformer.
Et la transformer.
C'est ça. Et dans le monde du ballet, c'est vraiment axé dans le monde du ballet, la beauté est toujours très, très, très importante.
Oui.
Et de pouvoir la contrôler, c'est encore plus important. Et je pense que c'est un beau défi que Guillaume Côté s'est mis entre les mains de faire une pièce qui en parle, en fait.
Oui.
Qui raconte comme cette histoire-là d'essayer de se transformer sans arrêt pour avoir ce summum de beauté-là.
Oui, oui. Il a tellement été fasciné par les formes artistiques d'avant-garde, il s'est allié avec 3 interprètes exceptionnels. Matt Foley, Greta Hawkinson et puis Kasia Vengouesha.
Vengouesha.
Vengouesha. Oui,
c'est ça. Et puis, je veux dire que Greta Atkinson, oui, qui est en fait une danseuse étoile du Ballet National, c'est une magnifique danseuse. Et c'est enfin de voir que ces danseurs-là, comment on pourrait dire, l'entraînement qu'ils ont, c'est qu'ils peuvent naviguer d'un univers vraiment de ballet,
oui,
à un univers de danse contemporaine et de façon vraiment limpide et avec une aisance. Et aussi les deux autres danseuses, l'autre danseuse, Katia, qui maintenant est établie à Berlin, c'est vraiment des étoiles qu'on va chercher un peu à travers le monde. Et c'est ce que j'aime de Guillaume Côté.
C'est la crème de la crème.
C'est la crème de la crème, absolument.
Oui.
Et puis d'avoir Matt Foley qui en fait a dansé pour le Ballet de Flandre, qui danse en ce moment pour le Ballet de Flandre, qui est vraiment une compagnie de ballet qui fait énormément d'œuvres contemporaines.
Oui, oui.
Donc, c'est, pour les yeux, pour le public, moi, je pense que c'est un spectacle vraiment très, très beau à voir.
Oui, oui. Eh bien, Royce, au fait, il est né au Canada, mais il est établi à Brooklyn. Mais il est né au Canada.
Il est né au Canada, absolument.
Oui.
Et lui, en fait, c'est un librettiste qui est établi, comme vous le dites, aux États-Unis,
oui,
à New York, en tant que tel. Puis, il écrit vraiment des livrets pour l'opéra.
Oui.
En fait, souvent.
Oui.
Et puis, il a fait un opéra, Angel's Bones, avec le compositeur d'Union, qui a reçu le prix Pulitzer de musique en 2017.
Wow.
Donc, c'est vraiment, moi je trouve, et c'est l'autre aspect de Guillaume Côté, il va chercher des collaborateurs de très haut niveau.
Oh.
La même chose pour la musique, en fait.
Oui, 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 oui. Il y a le Washington Post qui l'a surnommé le Metastasio de la scène lyrique du centre-ville. Suite à son opéra de Angel Bone. Je suis content de vous avoir, Pierre Desmarais, directeur de Danse. On va faire une pause musicale avec Francis Cabrel, à l'aube revenant, et puis on vous revient.
Très bien. À tantôt.
L'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants. Chaque geste est urgent, puisque le jour se lève, la tempête s'achève en murmures brûlants. S'était perdu dans l'obscurité profonde. Là, les étoiles se fondent au jour apparaissant. À leurs pas hésitants, on sent la fin du monde. Encore une seconde, encore un instant. Souffle qu'on entend, ces deux cœurs qui s'arrachent, une main se détache et l'autre la reprend. Aux yeux l'égarement des oiseaux qu'on relâche et qui cherchent où se cache le piège qu'on leur tend. Moindre éloignement, la vie qui les oblige, le vide, le vertige, et faire semblant. Ils se couvrent de serments, se jurent de poursuivre leur course en équilibre sur les pierres des torrents. L'aube revenant, chacun séparément continuera le rêve. Le le seul qui les soulève et les garde vivants. C'est éternellement qu'ils se croyaient soudés, et même l'éternité pour eux s'est passée longtemps. Ils étaient deux passants dans l'anonyme foule, dans ce fleuve qui roule, dans la masse des gens. Ils se sont reconnus un peu trop tard peut-être, mais c'est se reconnaître en vrai qui est important. À l'aube revenant, les amants se relèvent, descendent de leurs rêves, encore ruisselants.
Francis Cabrel, à l'aube revenant. Mon invité est toujours avec moi, Pierre Desmarais, directeur de Danse Danse. Voilà, on parle de cette nouvelle création audacieuse signée Guillaume Côté pour clore cette saison de danse. Ça devait être clos depuis 2020, comme Pierre l'a signalé en première partie de notre conversation. Et ça commence demain, jusqu'au 14 mai. 11, 12, 13, 14. Quatre belles soirées. Et le 11 et le 14, il y aura... comment dirais-je, conversation avec les artistes, hein? Rencontre.
Oui, oui, il y a toujours, oui.
Le 11, le mercredi 11, oui, et le vendredi 13, rencontre avec les artistes.
C'est bien ça.
Oui.
C'est nous, ça fait plusieurs années qu'on fait ça avec les artistes qui viennent se présenter à Montréal. Il y a toujours une discussion avec le public.
Oui.
Elle se fait, le public est dans la salle. Et nous, on est sur scène avec les chorégraphes et les danseurs.
Oui.
Et puis, il y a un échange. C'est pas vraiment, c'est pas une discussion formelle. C'est vraiment un échange avec le public.
Oui.
Si le public a des commentaires, des questions, et ainsi de suite. Donc, nous, on essaie de rendre ça très informel et non pas didactique, en fait.
Oui, oui, donc, oui. Oui, j'ai déjà assisté à ce genre de conversation, de rencontre avec les artistes, d'ailleurs. Lors de vos précédentes soirées de danse à la Place des Arts. Et en tant qu'artiste invité, lui, il a fait presque toutes les grandes salles. Toutes les... Je ne sais pas où il n'est pas passé, lui.
Oh non, c'est sûr. Guillaume, avec le Ballet National,
oui.
Guillaume est réputé. Il avait, à travers toutes les grandes compagnies de ballet,
oui,
on l'invitait pour être le prince,
oui,
dans,
oui,
les ballets classiques. Parce qu'il a cette façon d'être comme danseur mâle qui faisait qu'il était vraiment connu comme étant un excellent partenaire.
Oui, oui.
Pour les prima ballerina.
Oui, 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 oui. Il a dansé pour le théâtre Bolshoi, le Royal Ballet, l'American Ballet Theatre, oui, New York City Ballet, le Teatro alla Scala, l'English National Ballet, le théâtre Mikhailovski de Saint-Pétersbourg, le théâtre Colonne de Buenos Aires, Stadtoper de Berlin, New York. Mais la liste est longue, mais j'ai dit, mais où est-ce qu'il n'est pas passé? Il est passé partout.
Il est passé partout à travers le monde. Ça, oui, c'est sûr et certain. Et c'est drôle parce que, en fait, Guillaume Côté est connu à l'international, à Toronto, dans le reste du Canada anglais, mais puis il est considéré sur la scène internationale comme l'un des meilleurs danseurs de sa génération.
Oui.
Mais étonnamment, il est moins connu au Québec.
Chez nous, ici au Québec?
Oui, il est moins connu. Il est connu dans son coin de pays parce qu'il vient du lac Saint-Jean.
Oui, il est originaire du lac Saint-Jean, oui, oui.
Ah, ben oui. Donc, tout le monde au Lac-Saint-Jean connaît Guillaume Côté, il connaît son histoire, son ascension au Ballet national du Canada.
Oui.
Mais pour le reste du Québec, si on peut dire, il est un peu moins connu. Il est moins connu aussi comme chorégraphe.
Ah, OK. Et
donc, parce qu'il a été danseur premier danseur,
oui,
au Ballet national pendant tellement d'années.
Oui.
Et puis, là, pour nous, c'est une façon pour notre public, le public québécois, de découvrir ce Québécois, en fait.
Oui.
Qui a été un danseur d'adoption à Toronto.
Oui. Wow. Et là, en 2021, l'année passée, il vient de fonder sa propre compagnie, Côté Danse, axée sur la création multidisciplinaire de novatrices, avec comme mission de faire voir et vivre la danse autrement.
Exactement. Et il s'entoure toujours de collaborateurs de haut niveau.
Oui.
En termes au niveau pour faire du numérique et ainsi de suite. Il l'intègre dans ses pièces. Il est de plus en plus en demande dans ça. Il a fait une installation qui a été présentée à Toronto pendant trois mois dans un espace clos. Et puis, c'était une installation numérique, en fait. Et puis, dans lesquelles il y avait un danseur qui était là en permanence, qui se relayait, en fait, toutes les heures.
Oui.
Et qui faisait que ça a été un succès total. Donc, il est de plus en plus en demande dans ce genre de commandes d'œuvres-là.
Oui.
Qui ne sont pas nécessairement pour la scène, mais qui sont dans des espaces fermés dans lesquels il y a beaucoup de technologies numériques.
Oui, 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 oui. Alors, pour terminer, monsieur le directeur, quel est le message que vous avez? Et puis, bon, il faut préciser que il n'y a pas d'entraque durant cette soirée, cette différente soirée avec Guillaume Côté. C'est 65 minutes sans entracte.
C'est bien ça. 65 minutes sans entracte dans laquelle on pourra voir vraiment de beaux danseurs et danseuses, des corps fabuleux, des images fabuleuses aussi. Et je pense que c'est un artiste, un chorégraphe absolument à découvrir.
Oui, il est danseur et chorégraphe Guillaume Côté qui présente Crypto, une œuvre enlevante et novatrice. Merci beaucoup à vous et au prix. Et merci de nous faire découvrir, le monde entier en danse.
Ben, c'est moi qui vous remercie.
Merci à vous.
OK, au revoir.
Au revoir. On a terminé en beauté comme ça avec Paul Hardcastle, Summer Breeze. Oui, c'est l'été. Même si c'est pas officiellement l'été, mais pour moi, là, avec les températures que je vois ces jours-ci, c'est l'été. Voilà. Merci à toi, Nicolas. On se retrouve demain. On dit merci aussi à notre invité, Pierre Desmarais, directeur de Danse Danse. Je l'ai reçu dans le cadre de la nouvelle création signée Guillaume Côté pour clore cette saison Danse Danse. Crypto, 11, 12, 13, 14 mai. Merci à vous, chers fidèles auditeurs, auditrices. Voilà. Alors, et je vous le dis, prenez soin de vos minutes. Hier, c'était le mystère. Aujourd'hui, c'est le cadeau. C'est pourquoi on dit le présent. Prenez soin. Soyez agiles. Et puis, bon, ben, on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et toutes nos émissions sont sur toutes les plateformes numériques. Sur ce, je vous dis ciao.